Joyeux Noël à tous et voici le journal de Catherine Dutu. Bonjour Catherine.
Bonjour Guillaume, bonjour à tous. Alors que nombre de tables croulaient hier soir sous les agapes, le pape François a appelé les catholiques du monde entier, 1,3 milliard de personnes, à laisser de côté leur voracité consumériste pour réfléchir au sens spirituel de leur vie et au partage avec les plus pauvres. Message du pape dans son homélie de la nuit de Noël.
Lui promet de vraies réformes face à son peuple qui dénonce la cherté de la vie au Soudan. Le président Omar al-Béchir a tenté de réagir au sixième jour de manifestation contre le prix du pain, assombri par des heurts meurtriers qui constituent l'une des plus importantes contestations de son pouvoir en trois décennies.
À la une encore, un attentat a fait 43 morts hier en Afghanistan. Et puis 50 millions d'euros, c'est l'amende record que le superviseur bancaire français vient d'infliger à la Banque Postale. L'autorité de contrôle prudentiel et de résolution estime que la Banque Postale a manqué à son dispositif de lutte contre le financement du terrorisme.
Et puis dans une dizaine de minutes, Catherine, la question du jour, le sort des chrétiens d'Orient. On l'évoquera avec Sébastien de Courtois, il est producteur de l'émission Chrétiens d'Orient sur France Culture.
Ils ont bloqué des rues et brûlé des pneus, manifestés en scandant « Le peuple veut la chute du régime ». Des dizaines de Soudanais sont une nouvelle fois descendus dans la rue hier, bravant une répression armée, une vingtaine de morts dénoncées par l'opposition. Des Soudanais en colère, au départ à cause de la décision du gouvernement de tripler le prix du pain dans un pays en plein marasme économique. De premières manifestations contre la cherté de la vie, mais aujourd'hui, les protestataires réclament un changement de régime. Dans un Soudan dirigé depuis près de 30 ans par un même homme, le président Omar al-Béchir, 74 ans. Il a promis hier de vraies réformes pour garantir une vie digne aux citoyens. Alors qu'une grève interprofessionnelle a été lancée hier, les hôpitaux promis à rejoindre le mouvement qui dure depuis 6 jours maintenant. Les précisions d'Omar Waman.
C'est un mouvement de contestation qui grandit de jour en jour. L'un des plus importants en 30 ans de pouvoir de l'actuel président Omar al-Béchir. Marc Lavergne, directeur de recherche au CNRS, spécialiste du Soudan.
C'est un mouvement national qui ressemble peut-être encore plus aux gilets jaunes qu'au printemps arabe dans la mesure où il n'y a pas de leader, il n'y a pas d'organisation. Derrière, les partis politiques sont complètement démonétisés, donc on ne voit pas comment les choses pouvaient évoluer autrement que par un soulèvement populaire.
Derrière le prix du pain, il y a une colère générale, sur fond de difficultés économiques croissantes, d'inflation galopante et de pénurie.
La monnaie s'est effondrée, le pays n'a plus de devises pour importer les biens de première nécessité et la population est donc aux abois.
Une situation qui a poussé la population à descendre massivement dans la rue, une foule majoritairement jeune face aux forces de l'ordre qui répriment ces manifestations dans le sang.
Les forces armées ou les forces de sécurité ont l'ordre de tirer à vue sur les manifestants désarmés. Ils sont poitrine nue face aux fusils.
Galvanisé par le soutien d'une grande partie des Soudanais, l'opposition a appelé à une enquête internationale et à la fin du régime d'Omar al-Béchir.
Omar al-Béchir, déjà suspecté par la Cour pénale internationale de crimes contre l'humanité, de crimes de guerre et de génocide au Darfour. Le dirigeant autoritaire devrait se rendre aujourd'hui dans la province d'Al Jazeera, au sud de Khartoum, pour tenter d'éteindre la contestation sociale et politique. Lui ne cesse d'appeler au partage avec les plus pauvres. Le pape François a vivement critiqué hier soir, dans son homélie de Noël, la voracité consumériste des hommes. Le souverain pontife s'est exprimé devant une dizaine de milliers de fidèles rassemblés comme chaque année dans la basilique Saint-Pierre de Rome, le pape François qui a appelé à réfléchir au sens spirituel de leur vie.
L'homme est devenu avide et vorace. Avoir amassé des choses semble pour beaucoup de personnes le sens de la vie. Une insatiable voracité traverse l'histoire humaine, jusqu'au paradoxe d'aujourd'hui. Ainsi, quelques-uns se livrent à des banquets tandis que beaucoup d'autres n'ont pas de pain pour vivre. Demandons-nous, ai-je vraiment besoin de beaucoup de choses, de recettes compliquées pour vivre? Est-ce que j'arrive à me passer de tant de garnitures superflues pour mener une vie plus simple?
Le pape François, qui vient de fêter ses 82 ans, il adressera aujourd'hui son 6e message de Noël, Ubi et Orbi, à la ville et au monde. Ce sera en fin de matinée devant les fidèles, place Saint-Pierre. Le manque d'eau potable et de médicaments se fait cruellement sentir parmi les milliers de survivants du tsunami en Indonésie. Les secouristes s'efforcent d'apporter de l'aide aux régions dévastées par les vagues meurtrières, mais les travailleurs humanitaires craignent désormais une crise sanitaire, alors qu'un dernier bilan avoisine désormais les 400 morts, plus de 1400 blessés, polémique sur l'absence d'alerte officielle avant ce tsunami qui a frappé ce week-end les côtes du sud de Sumatra et de l'ouest de Java. On y revient dans le journal de 7h30. Un attentat à Kaboul a fait au moins 43 morts et 10 blessés hier dans un complexe gouvernemental afghan pris d'assaut durant près de 7 heures par des hommes armés. L'attaque n'a pas encore été revendiquée, mais elle intervient après l'annonce non confirmée officiellement du prochain retrait de quelques 7000 des 14000 soldats américains présents en Afghanistan, un désengagement déjà salué par les talibans. Le retrait possible des États-Unis d'Afghanistan, retrait confirmé de Syrie, mais aussi turbulences financières paralysie d'une partie des administrations américaines, autant de motifs de colère pour l'opposition aux États-Unis. Les démocrates ont accusé hier Donald Trump d'avoir plongé les États-Unis dans le chaos à la veille de Noël, alors qu'aucune issue immédiate au shutdown ne se dessine. Depuis vendredi soir minuit, en effet, les États-Unis sont en paralysie partielle au niveau de l'administration fédérale, faute d'accord sur le budget entre le Congrès et la Maison-Blanche à cause du mur que Donald Trump veut construire à la frontière mexicaine. La paralysie de l'administration fédérale risque de durer jusqu'après les fêtes. 800 000 fonctionnaires concernés. Certains vont être renvoyés chez eux provisoirement. D'autres vont travailler sans être payés. Pour l'instant, l'impact de ce shutdown reste limité, notamment dans les rues de la capitale fédérale. Mais c'est quand même le sujet dont tout le monde parle à Washington, Grégory Phillips.
Sur le Mall, la grande esplanade qui relie le mémorial de Lincoln au Capitole, la seule trace visible de ce shutdown, c'était hier matin, le sapin de Noël national, installé juste derrière la Maison Blanche. Le sapin est éteint et un panneau indique que la zone est fermée car les fonds fédéraux n'ont pas été débloqués. Au pied du sapin éteint, ces deux touristes américains venus de Caroline du Nord sont un peu déçus mais disent soutenir le président. Parce qu'on veut ce mur à la frontière, dit Shirley. Le shutdown, c'est le seul levier dont dispose Trump pour résoudre ce problème, ajoute Vince. Andrea, elle, est plus inquiète. Cette fonctionnaire fédérale travaille pour le ministère des Transports. C'est très confus ces derniers temps, dit-elle. La semaine passée, on avait l'impression que mon service allait fermer. Et puis non, finalement. Et puis on ne sait plus trop. Ce que je sais, c'est que tous ceux qui commenceront à travailler demain, mercredi, le feront gratuitement, sans certitude d'être payés après. C'est comme ça que ça marche ici. On verra bien ce qui se passe. Ce shutdown risque de durer longtemps, peut-être jusqu'à la rentrée parlementaire du 3 janvier. En attendant, le standard de la Maison-Blanche ne répond plus. Par manque de financement fédéraux, dit le message enregistré, et la voix conclut. On espère pouvoir vous répondre dès que le gouvernement rouvrira.
Grégory Phillips à Washington pour France Culture. Le seul problème de notre économie, c'est la Fed, a tweeté Donald Trump. Toujours vent debout contre la Banque Centrale Américaine qui a remonté la semaine dernière ses taux d'intérêt dans un contexte de grande inquiétude sur les perspectives de croissance de la première économie du monde. Cela s'est traduit hier par un nouveau recul de Wall Street. Les propos du président américain ont accentué la fébrilité des marchés. Le Dow Jones a perdu 2,91%.
7h09 sur France Culture, la suite du journal de Catherine Dutu. 50 millions d'euros, c'est l'amende record que le superviseur bancaire français vient d'infliger à la Banque Postale.
Une amende assortie d'un blâme. L'autorité de contrôle prudentiel et de résolution reproche à la Banque Postale de ne pas avoir suffisamment assuré son dispositif de lutte contre le financement du terrorisme. Fonctionnement problématique notamment des mandats cash nationaux qui permettaient de transférer très rapidement jusqu'à 1500 euros à un tiers. D'Hakim Kasmi.
Dans le détail, le superviseur bancaire reproche notamment à la Banque Postale de ne pas s'être dotée d'un dispositif lui permettant de détecter avant leur exécution leurs opérations au bénéfice de personnes faisant l'objet d'une mesure européenne ou nationale de gel des avoirs. C'est ainsi que la banque a entre le 1er décembre 2009 et le 13 mars 2017 exécuté au moins 75 opérations de mandat cash au niveau national pouvant aller jusqu'à 1500 euros. pour le compte de 10 clients dont les éléments d'identité, nom, prénom, date de naissance, correspondent à ceux des personnes qui faisaient l'objet, dans 9 cas sur 10, d'une mesure de gel en raison d'activités terroristes. Alors, même si la Banque Postale a, dès le début 2013, identifié cette carence au niveau des mandats cash, aucune action correctrice n'avait été mise en œuvre au moment du contrôle sur place effectué par l'ACPR de mars à juillet 2017. Dernier fait aggravant, les lacunes détectées et les informations s'y rapportant n'avaient pas été soumises au comité de risque du conseil de surveillance de l'ACPR. Enfin, pour sa défense, la Banque Postale rappelle dans un communiqué que les mandats suspects ne représentent que quelques milliers d'euros durant la période d'enquête. La Banque Postale, qui estime ces sanctions trop lourdes, a donc décidé d'engager un recours devant le Conseil d'État.
Quand le marché de l'art devient un marché à deux vitesses, quelques tableaux se vendent à des millions d'euros, mais plus de 80% des œuvres se vendent, elles, à moins de 5000 euros. C'est le reportage de la rédaction à suivre à 7h24 sur France Culture. Quand les œuvres d'art s'achètent aussi de plus en plus en ligne, un boom qui transforme en profondeur le marché de l'art. Mathilde Leroy est fondatrice de Casoart, galerie d'art en ligne, fondée en 2015.
Le marché de l'art, qui est un marché traditionnel, a mis du temps à se tourner vers le web. Depuis quelques années, là, c'est vraiment en train de s'accélérer. La taille du marché de l'art en ligne en 2018 a atteint 5 milliards de dollars. Donc là, chiffre inégalé, hein. Il y a une croissance de entre 15 et 20% par an de ce marché, donc beaucoup plus importante que le reste du marché de l'art. On peut parler d'engouement quand même aussi des investisseurs autour de l'art en ligne, puisque la plateforme Artsy américaine a levé 50 milliards de dollars quand même sur cette année, ce qui prouve vraiment à quel point il y a aujourd'hui des investisseurs qui croient dans l'avenir de ce marché. Ce qui est sûr, c'est qu'il y a des montants de plus en plus élevés. Il est clair qu'aujourd'hui, régulièrement, sur des plateformes, il y a des transactions à des montants supérieurs à 50 000 euros. En fait, nous, on voit une évolution aussi, hein. Ça fait donc 4 ans qu'on existe en tant que galerie d'art en ligne, et on a vu les montants des transactions presque se multiplier par 2 en moyenne chaque année. Donc, il y a une confiance qui s'installe, il y a une pratique qui se développe, il y a des acheteurs plus aguerris qui viennent sur Internet et considèrent qu'ils peuvent trouver des œuvres de qualité sur Internet, ce qui n'est pas le cas encore, je pense, il y a 2 ans.
Mathilde Leroy, fondatrice de la galerie d'art en ligne Casoart, jointe par Guillemette Franquet. Le temps de ce mardi 25 décembre, gris ce matin, plus lumineux cet après-midi. Les températures sont comprises entre moins 2 et 2 degrés ce matin dans le nord et l'est de l'Hexagone, comptez de 3 à 8 dans le reste du pays.